Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonne année.
Oui, il est encore temps de le dire. Vous venez, Corinne Lepage, de rejoindre Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. Vous n'êtes pas la seule ces derniers jours, on va en parler. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ?
C'est quelque chose qui, une aventure, si je puis dire, qui a commencé il y a plusieurs mois. Au mois d'octobre, les premières discussions que nous avons eues. Je dirais que d'abord, sur le plan du positionnement politique, c'est le même que le nôtre. C'est-à-dire cette volonté d'essayer de trouver à réunir, au-delà de la droite et de la gauche, les gens qui partagent un même projet, parce qu'en réalité, on se rend compte que dans chaque camp, la distance entre les opposés de bord d'un camp sont finalement chacun plus proches du camp de l'autre.
Est-ce que c'est pas ce qu'avait voulu faire François Bayrou aussi, d'une certaine manière ?
Un peu, mais je dirais que c'est beaucoup plus moderne que ce qu'a fait François Bayrou. Et la différence aussi, c'est l'appel à la société civile. C'est-à-dire que Emmanuel Macron veut se situer délibérément en dehors des structures politiques traditionnelles. Il n'y a pas d'accord de structure à structure, ce qui est quelque chose de nouveau dans notre univers politique. Alors, tout cela me va vraiment bien. L'équilibre entre le social et l'économique aussi, parce que je pense qu'il faut absolument permettre beaucoup plus, notamment aux petites entreprises, de pouvoir créer, investir, qu'elles ne le peuvent aujourd'hui. Et dans le même temps, l'effort en faveur de la solidarité et de la sécurité de chaque parcours individuel doit être très important. Tout simplement parce qu'on est dans une société dans laquelle le travail est totalement bouleversé.
Alors je le disais, donc vous n'êtes pas la seule. Il y a également un proche de Martine Aubry qui l'a rejoint, Jean-Marie Cavada, proche de François Bayrou, lui, l'économiste Jean-Pierre Pisani-Ferry, ex-conseiller de Dominique Strauss-Kahn. Et pourtant, il n'y a toujours pas de programme aujourd'hui. Emmanuel Macron n'a pas présenté de manière traditionnelle un programme. Quand on va sur son site En Marche, on n'en trouve pas. Donc au fond, tout le monde se rallie derrière quoi ? Derrière une personne et derrière ce qui ressemble à une méthode ?
Alors, il y a une méthode, il y a une personne. Il y a aussi déjà un certain nombre de mesures d'un programme dans le domaine économique et social.
Ce sont des esquisses pour l'instant.
Un peu plus. Donc, il y a Révolution, mais Révolution, le bouquin qu'il a écrit, c'est effectivement assez large. Par contre, le discours qu'il a prononcé à la porte de Versailles il y a maintenant quelques semaines était assez clair en ce qui concerne les mesures économiques et sociales. Et j'observe du reste que M. Fillon ne s'y trompe pas puisqu'il attaque précisément un certain nombre des mesures qui ont été proposées. Ce qui est vrai, c'est que le programme global, c'est-à-dire la politique internationale, la politique de sécurité, l'environnement, la justice, sur tous ces sujets-là, Emmanuel Macron a décidé de faire les propositions point par point pour arriver probablement à la fin du mois de février à un programme global.
Alors sur l'environnement justement, puisque ça c'est votre sujet, vous avez été ministre.
C'est un de mes sujets, oui.
Vous avez été ministre de l'environnement, vous avez créé un parti qui se préoccupe d'environnement. Emmanuel Macron est-il écologiste, lui ?
Réponse non.
Voilà, la réponse est non. Alors qu'est-ce que votre propos,
alors,
c'est quoi ? C'est de le transformer ?
Alors,
et par exemple aussi sur la question du nucléaire ?
Alors non, c'est pas un écologiste, mais je dirais que l'immense majorité de la classe française n'est pas écologiste. Si nous étions majoritaires, ça se saurait. Donc mon objectif est de discuter avec lui, avec ses équipes, ce que nous faisons déjà depuis plusieurs semaines. Et c'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui a manifestement fait des propositions au temps où il était ministre, qui était extrêmement pro-nucléaire. Nous en discutons énormément. On va voir les solutions qu'il proposera ultérieurement et qui pourraient un peu évoluer. En tout cas, je l'espère.
Mais votre soutien, du coup, il est conditionnel ou...
Non, il n'est pas conditionnel parce que nous sommes dans notre mouvement qui s'intègre du reste dans une alliance de la société civile. Nous sommes pragmatiques et à partir du moment où vous ne souhaitez la victoire ni de Marine Le Pen ni de François Fillon, en l'état actuel des choses, le seul qui est en capacité de soulever l'enthousiasme, parce que c'est indéniable, de porter les Français vers un projet, c'est Emmanuel Macron, et de gagner, de passer au deuxième tour. Voilà, donc de toute façon, j'espère bien qu'il y aura des évolutions. Bon, si évidemment il prenait des positions radicalement contraires à ce que nous soutenons, à ce moment-là, la question pourrait se poser, mais je ne pense pas qu'elle se pose.
En novembre dernier, et Guillaume Larrivé, porte-parole des Républicains, le rappelait hier pour le déplorer et même le dénoncer, en novembre dernier, Emmanuel Macron avait estimé que, je le cite, la société française devait assumer une part de responsabilité dans le terreau sur lequel le djihadisme a pu prospérer. Est-ce que vous partagez cette vision des choses ?
Pas exactement. Je pense que quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes, le premier objectif, c'est d'abord de défendre nos concitoyens. Et donc de mettre en place tous les outils, notamment dans le domaine du renseignement, où nous avons encore des marges de progrès à faire, parce que malheureusement, la disparition de la police de proximité a été une véritable catastrophe en termes de renseignement. C'est le premier point. Ensuite, on n'échappe pas au questionnement du savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et à partir du moment où comment est-ce qu'on en est arrivé là se pose, bien évidemment, la question des jeunes Français radicalisés se pose, et de savoir pourquoi et comment les politiques d'intégration ont échoué. C'est pas du tout dans ma bouche le début du commencement d'une excuse. C'est simple à leur encontre, parce que rien ne justifie ce qui est fait. Mais en revanche, c'est d'essayer de trouver les bonnes voies pour réduire à la source le risque de radicalisation.
La première ministre britannique a précisé hier les conditions de sortie de l'Union européenne. Ce sera ce qu'on appelle un Brexit dur, c'est-à-dire pas un pied dehors et un pied dedans, a-t-elle expliqué elle-même. Est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Est-ce qu'au fond, est-ce qu'un Brexit mou, par opposition au Brexit dur, était possible ? Et qu'est-ce que ça aurait été ?
Non, mais elle parle d'un Brexit dur, mais dans le même temps, elle menace les Européens, si les solutions de compromis ne sont pas trouvées, de leur opposer le plus de difficultés possible. Donc on voit bien que c'est un Brexit dur, mais d'un autre côté, elle voudrait bien que nous fassions des concessions suffisantes pour que ça l'arrange. Ben, je pense qu'il faut que l'Angleterre comprenne deux choses. La première, c'est qu'elle a fait un choix et maintenant elle doit l'assumer. Ça ne veut pas dire de la sueur et des larmes nécessairement, et une volonté de rétorsion. Mais simplement, une décision est prise, elle doit être assumée. Et deuxièmement, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Autrement dit, j'espère bien que l'Europe aura à cœur, les 27, de défendre avant tout leurs intérêts à l'égard de la Grande-Bretagne. Et je pense que Michel Barnier, qui est à la fois diplomate, mais sait être ferme, aura à cœur de défendre ce point de vue.
Sur l'Europe, la vision d'Emmanuel Macron vous paraît intéressante ?
Oui, je la partage totalement.
C'est ça, en partie, qui vous a séduit ?
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, il y a à la fois un enthousiasme. Parce que arriver à faire applaudir l'Europe aujourd'hui, il faut quand même le faire. Il y arrive.
C'est vrai. Bon.
Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il partage cette idée que j'avais défendue lors de la dernière campagne européenne, de ce que j'avais moi appelé cœur d'Europe, c'est-à-dire de voir avec un petit noyau de pays la manière dont on peut rapprocher nos politiques, notamment dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la sécurité, de manière à aller vers, si pas vraiment du fédéralisme, mais disons une Europe très renforcée autour des États créateurs de l'Europe, des six, plus ceux qui voudraient y venir.
Merci Corinne Lepage.
Merci à vous.
Bonne journée.